Le journal des sports, c'est avec vous, Jean-Pierre Blimaud, bonsoir.
Bonsoir Yves.
On commence avec le championnat du monde de basket qui s'est achevé aujourd'hui en Chine avec la victoire de l'Espagne. Mais la France revient avec une très belle médaille de bronze.
Et cela auprès d'une victoire de 8 points face à l'Australie, 67-59 aujourd'hui lors du match pour la 3e place et au terme d'une rencontre à deux visages, Vincent Pellegrini.
On a longtemps cru que les Bleus allaient rester au pied du podium. Dans la foulée de leur demi-finale ratée face à l'Argentine, ils ont longtemps balbutié leur basket, une adresse en berne, un manque d'agressivité défensive, beaucoup de ballons perdus. Au début du 3e quart-temps, les hommes de Vincent Collet accusaient un retard de 15 points. C'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé les ressources pour revenir dans le match, sous l'impulsion notamment de Nando De Colo et du capitaine Nicolas Batum. Le dernier quart-temps a été totalement à leur avantage. Ce succès offre un podium aux coéquipiers de Nando De Colo, meilleur marqueur du match avec 19 points.
Bien sûr que c'est plus qu'un lot de consolation, je veux dire. C'était pas la médaille qu'on espérait au début, mais voilà, c'est toujours compliqué d'aller jusqu'au bout. Et je pense que tout sportif, quel qu'il soit, sait à quel point c'est compliqué d'avoir une médaille. Ce soir, on pouvait pas se dire de rentrer à la maison sans rien. Certes, il y a la qualification pour les JO, c'est très bien. Mais comme je l'avais déjà dit, c'était que le minimum. Et ce soir, on a fait un excellent boulot. On a encore vu l'esprit de notre équipe qui s'est battue jusqu'à la fin. Et voilà, on a arraché cette victoire.
Un titre de champion d'Europe en 2013, deux médailles de bronze consécutives en Coupe du Monde. Une réjouissante continuité dans les résultats pour une équipe qui a su gérer la retraite du duo Tony Parker-Boris Diaw. Et cette place dans le dernier carré de ce mondial permet donc aux Bleus de se qualifier pour les JO de Tokyo l'an prochain. Ce sera leur 3e tournoi olympique consécutif.
Vincent Pellegrini, alors la France 3e, c'est donc l'Espagne qui finit championne du monde pour la 2e fois après sa traînée de victoire contre l'Argentine, 95-75, c'était en finale. Et puis restons dans les sports de salle, ça continue d'une manière positive pour l'équipe de France de volleyball cette fois, qui a gagné son 3e match en 3 rencontres lors de l'Euro qui se déroule en France. Cela s'est passé aujourd'hui à Montpellier, victoire 3-7-0 contre le Portugal.
La 5e journée de Ligue 1 suite et fin tout à l'heure avec Monaco-Marseille. En attendant, deux matchs avaient lieu cet après-midi.
Et d'abord Nantes a battu Reims 1-0, un but de Koulibaly. Et puis Saint-Etienne et Toulouse se sont neutralisés. Les Verts étaient menés 2-0 avant que Romain Amouma ne réussisse un doublé et ne permette aux Verts de prendre un point à domicile.
Alors on en vient à la principale affiche de cette 5e journée. Tout à l'heure au stade Louis II, Monaco, mal en point qui accueille Marseille.
Monaco avant-dernier du championnat avec seulement 2 points et pas un seul succès en 4 match. Marseille est un peu mieux loti, mais l'OM ne va pas se fier au modeste classement des joueurs de la principauté, Bruno Blanza.
Non, Monaco n'a pas la tête d'un relégable, mais les Monégasques y sont dans la panade. Ils ne parviennent pas à décoller, malgré leur recrutement grandiose, à faire rougir un supporter de l'OM. 40 millions d'euros pour Ben Yedder, buteur avec l'équipe de France il y a une semaine, et puis un prêt bien malin du costaud Islam Slimani, qui vient de marquer 3 buts en 2 matchs. Monaco est vraiment impressionnant sur le papier, mais le Rocher n'est pas encore bien solide en ce début de saison, d'où l'occasion à saisir pour l'OM et son défenseur Bouba Camara.
On va s'attendre à un très grand match, on est sur une bonne dynamique et c'est à nous d'aller s'imposer à Monaco.
L'OM qui va changer de schéma tactique, passer avec 4 joueurs offensifs en raison de la blessure de Florian Thauvin. La longue absence du meilleur Marseillais présente en près d'un but sur deux de l'OM ces deux dernières saisons qui ne change rien aux ambitions marseillaises de podium selon Bouba Camara.
On sait où on veut aller, c'est pas parce qu'il manque un joueur ou un joueur est blessé que nos ambitions vont changer, ils restent les mêmes.
Et dans cette course à l'Europe, l'OM a l'occasion ce soir, en cas de victoire, de mettre Monaco concurrent direct à 8 points.
Bruno Blanza, donc le coup d'envoi de Monaco-Marseille, c'est à 21h.
En rugby, à 5 jours du premier match des Bleus en Coupe du Monde, c'est une cérémonie très symbolique qui a eu lieu aujourd'hui au Japon pour le 15 de France.
Et c'est celle de la remise des capes. Alors autrement dit, ce sont des casquettes qui marquent l'intronisation des joueurs dans une liste pour la Coupe du Monde. Alors tout cela à 5 jours, vous l'avez dit, du premier match des Bleus, ce sera face à l'Argentine. Bonsoir Fanny Lechevestrier, vous avez pu assister à cette cérémonie et il y avait de l'émotion aujourd'hui chez les Bleus.
Oui. Cette émotion se lisait cet après-midi sur les visages des joueurs, notamment lorsqu'ils sont entrés dans ce grand théâtre de Kawaguchiko, accompagnés par les applaudissements des enfants des écoles de rugby alentour. Beaucoup de ces enfants qui portaient un maillot bleu, qui avaient tous des affichettes avec écrit en français « Bonne chance, allez les Bleus » et même « Bon courage ». Cela fait sourire parce que c'est vrai que le parcours des Bleus dans cette Coupe du Monde ne paraît pas simple, mais c'était vraiment un joli moment de communion avec la population locale, moment solennel aussi, avec un groupe de percussion qui a interprété pour les Bleus des musiques traditionnelles japonaises. Je vous en fais écouter un petit extrait. venu le temps de la remise des capes, des casquettes bleues et or à pompons dorés à chacun des joueurs. Un moment important qui vous fait entrer de plein pied dans la Coupe du Monde. C'est ce que nous a expliqué Guillaume Guerrado, le capitaine du 15 de France.
Tous les joueurs, si vous leur posez la question, retracent, je pense, un petit peu leur parcours de rugbyman, d'homme aussi. Donc forcément, il y a toujours beaucoup d'émotions et voilà, tous les sacrifices que l'on peut faire aussi. Voilà, c'est toujours des moments très importants d'une carrière de rugby, mais surtout en tant qu'homme.
Les Bleus hein, qui sont ensuite allés poser pour la photo officielle au sanctuaire de Kitaguchi. C'est un sanctuaire classé au patrimoine de l'UNESCO qui mène au Mont Fuji, au milieu de cèdres centenaires. Certains joueurs ont suivi le rite du Temizuya pour se purifier et y faire une prière. Espérons qu'ils aient trouvé une force avant d'attaquer non pas le Mont Fuji, mais la montagne Coupe du Monde.
Alors, justement, Fanny, comment vont les Bleus? Est-ce qu'ils sont prêts à défier l'Argentine samedi prochain?
Ils se disent prêts en tout cas, et c'est vrai qu'à force de les entendre nous le répéter depuis plusieurs jours, on a presque envie de les croire capables de faire une grande Coupe du Monde. On le voit à l'entraînement, et même encore aujourd'hui, il y a un bel état d'esprit qui souffle sur ce groupe, devenu une bande d'amis au bout de 2 mois de préparation, nous disent-ils. Le sélectionneur Jacques Brunel, lui, nous a parlé hier de conviction et que son ambition, puisque personne, à commencer par les médias, ne les voyait aller en quart de finale, eh bien, c'était de montrer à tous qu'on avait tort et donc de sortir des phases de poule. Alors, méthode couée ou non, difficile de savoir. On va vite être fixé, puisque le match face à l'Argentine que les Bleus doivent absolument gagner pour espérer se qualifier arrive maintenant dans moins de 5 jours.
Merci Fanny Lechevestrier. France-Argentine, ce sera à 9h15 du matin, heure française, donc pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour les Bleus. Et puis, le rugby, c'est aussi le top 14 ce week-end. 2 matchs aujourd'hui pour clôturer la 4e journée. Victoire de Toulon face au Racing 92. Les Toulonnais se sont fait peur, mais se sont imposé finalement 32-29. Et puis Agen a battu Montpellier 29-10 en milieu de journée.
Un mot de cyclisme, Jean-Pierre, avec le Tour d'Espagne qui vient de s'achever. Une très belle surprise côté français.
Oui, Geoffrey Bouchard, 27 ans de l'équipage Elezer, endosse le maillot de meilleur grimpeur. Il était simplement venu pour terminer le Tour d'Espagne. Il était encore assistant commercial dans une grande enseigne de magasins de sport il y a seulement 2 ans. Rappelons que dans 2 semaines, ce seront les championnats du monde en Angleterre.
À 19h24, un sujet inhabituel dans ce journal des sports. Après l'accident mortel qui a coûté la vie à une jeune cavalière française le week-end dernier, la question de la sécurité est de nouveau posée dans une discipline très pratiquée en France.
Oui, l'équitation, c'est 700 000 participants et même c'est le premier sport féminin en France le 7 septembre. Malheureusement, la jeune cavalière Thaïs Méheu, qui était l'une des cavalières les plus prometteuses de l'équipe de France, s'est tuée à 22 ans alors qu'elle disputait le championnat de France de cross. Elle rêvait de représenter la France aux prochains Jeux Olympiques. Ce nouveau décès dans cette discipline qui a pourtant fait d'énormes progrès ces dernières années, pose encore et toujours la question de la sécurité. Guillaume Batin, vous êtes allé dans un centre équestre à Lézigny, en Seine-et-Marne, près de Paris.
Marie Naï a 31 ans, dont 24 à cheval. Depuis une dizaine d'années, elle monte Surprise, une jument âgée de 13 ans qu'elle a achetée très jeune.
Elle, c'est une crème. Des fois, je dis que c'est une jument de Barbie parce que tu peux en faire ce que tu veux, comme un cheval de Barbie.
Et pourtant, lors d'un cross en mars 2016, Surprise a stoppé net en haut d'une butte et Marine s'est grièvement blessée.
Je me suis cassé les 2 os de la jambe, tibia et péronée. Oui, il faut pas nier que le cross, c'est plus dangereux que le reste. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup plus vite. Ça peut aller entre 400, 500 mètres minute, 550 mètres minute. Et on saute des obstacles fixes. C'est là où réside le vrai danger, c'est qu'un obstacle fixe, eh bien, si un cheval le touche, l'obstacle ne tombe pas. Ça peut être le cheval ou le cavalier qui tombe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on part avec un équipement extrêmement renforcé. Un gilet comme un gilet pare-balles, un airbag, si ce n'était pas dangereux. Donc on essaie de limiter au maximum le risque. Bien sûr qu'il est toujours présent et on pourra, à mon avis, jamais le supprimer entièrement. On dit que pour être un bon cavalier, il faut tomber au moins 100 fois.
Galop à droite, tu réorganises, regarde où tu vas.
Marine s'entraîne avec Gilles Véron, cavalier professionnel, 40 ans d'expérience. Quand il a commencé, il montait coiffé d'une simple casquette et habillé d'un gros pull.
Sur le cross, c'est très sécurisé, il y a des juges à chaque obstacle, il y a quand même énormément de secouristes sur tout le tracé pour qu'il y ait toujours quelqu'un à disposition s'il y a un problème qui se passerait sur cette épreuve de fond. Après, je crois que le risque zéro n'existe pas. Et un cheval peut se louper, même si c'est un crack, il peut mal évaluer le saut et se déséquilibrer sur une épaule. Et effectivement, la chute, à ce moment-là, intervient. Il faut essayer d'arriver à trouver des solutions encore plus adaptées et réfléchir tous ensemble pour améliorer ça, quoi.
Malgré les progrès, le cross est régulièrement mis sous pression par le CIO. Le Comité international olympique a plusieurs fois envisagé d'exclure la discipline de la famille olympique pour le danger qu'il représente pour les cavaliers et les chevaux.
Salut ma poulette. À demain.
Le reportage de Guillaume Batin au centre équestre de Lézigny en Seine-et-Marne.
Pour terminer, des nouvelles de l'équipe de France de Cécifoot qui est à Rome où elle dispute à partir de demain le championnat d'Europe de cette discipline, le football pour aveugles et malvoyants.
L'équipe de France rêve d'un titre, hein, au moins une finale pour décrocher l'un des deux billets qualificatifs pour les Jeux de Tokyo l'été prochain. L'une des stars du Cécifoot en France, Yvan Wanji, vice-champion paralympique à Londres en 2012, nous explique comment on pratique ce sport.
Le Cécifoot, c'est du foot à 5. Seul le gardien de but est voyant. Et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous un bandeau sur les yeux. Parce que parmi nous, il y a des mâles et les non-voyants. Pour repérer la balle, il y a des clochettes à l'intérieur, permettant aux joueurs de le repérer. Et derrière la cage adverse, il y a un guide. C'est quelqu'un qui voit. Donc dès qu'il parle, les attaquants visualisent la cage.
Les gars, on y va s'il vous plaît. Là, sur le penalty, il va taper sur les poteaux pour nous donner les 3 informations. Le joueur de Cécifoot foot visualise la cage et là il peut tirer. Tout passe par de l'information et par des codes pour que le porteur de balle sache où sont les adversaires, pour pas qu'on se rentre dedans. J'interviens énormément dans les écoles notamment, dans les entreprises, pour que les gens découvrent cette discipline et pour que les gens comprennent que le handicap ne nous met pas dans une case. On est d'abord et avant tout des joueurs de foot, avec pour particularité d'être mal ou non-voyant, mais on reste d'abord et avant tout des athlètes. On veut être vu comme les autres. Le handicap, c'est pas ce qui nous définit.
Yvan Wanji, joueur de Cécifoot de l'équipe de France qui joue donc l'Euro à partir de demain. En fait, le premier match de la France, ce sera mardi, à suivre sur la page Facebook de Cécifoot France officielle. Un mot de rallye, Sébastien Ogier se relance dans la course au titre de champion du monde. Il a remporté le rallye de Turquie aujourd'hui et se rapproche du leader, l'Estonien Ott Tänak. Ogier n'est plus qu'à 17 points devant le pilote Citroën. Et puis le championnat du monde de vitesse à moto, Fabio Quartararo est deuxième, juste derrière l'Espagnol Marc Marquez qui l'a doublé dans le dernier tour du Grand Prix de Saint-Marin. Aujourd'hui, Fabio Quartararo est plus que jamais un homme à suivre.
Et voilà, c'était le dernier mot de Jean-Pierre Blimeau. Merci Jean-Pierre pour ce journal des sports.